Elisabeth, bonjour. Nous avons parcouru à l'émission précédente trois jardins. Le jardin du monde avec la Villa Marjorelle au Maroc, avec la Villa Efrosi au Cap Ferrat pour la France et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, les jardins du château de Touvet. Et nous allons continuer pendant cette demi-heure le même genre de parcours. Si vous êtes d'accord. Et pour le Jardin du Monde, vous avez choisi cette fois?
Alors, je pense que si un pays, lorsqu'on dit jardin, à quel pays pense-t-on tout de suite? Je pense qu'on pense au Japon. Je trouve que c'est un pays qui a su créer un culte pour le jardin, je pense.
Jardin et en même temps de nouveau inspirant et
voilà. Et là, on a vu des jardins qui étaient des jardins d'essence. On a vu l'émission précédente, on a vu le jardin qui était un jardin de standing, de faire valoir d'une villa. On a vu un jardin nature complètement alpin qui venait créer un écrin pour un très beau château, le château du Touvet. Eh bien ici, c'est un jardin plutôt de méditation, je crois, de méditation, d'harmonie, de zénitude. Les jardins japonais prennent des idées dans le paysage naturel et les recréent à échelle réduite dans un jardin. Et les jardins japonais ont énormément d'espace. Ils développent leurs différentes atmosphères de jardin sur de très grands espaces avec des promenades qui sont très sereines, qui permettent des vues très reposantes, très sereines. Et c'est le cas justement du sublime jardin de Kanazawa. C'est l'un des trois plus beaux jardins du Japon, situé à proximité du château de Kanagawa dans la préfecture d'Ishikawa sur la côte nord-ouest de la région centrale de Shubu, signifiant littéralement jardin aux six aspects. Il s'étend sur 11 hectares où la beauté des arbres et des fleurs s'admire en toute saison. Ça aussi, c'est une... On veut aller, bien sûr, voir les cerisiers en fleurs au printemps, mais il faut savoir que les parcs japonais, les jardins japonais, peuvent s'admirer en toute saison, même en hiver, parce que en hiver, il y a comme des sculptures de neige qui viennent se poser sur la végétation qu'elle recouvre. C'est vraiment... Et même ces paysages-là, qui pourraient nous sembler nus et froids, sont très inspirants et très reposants. Celui qui nous intéresse ici est d'ailleurs souvent considéré comme le plus beau jardin japonais de l'archipel. Son nom lui-même fait référence aux six attributs considérés comme les plus importants dans la notion du jardin idéal. Voilà, on est dans la notion de jardin idéal. L'espace, je viens d'en parler, la sérénité, deuxième élément. La vénérabilité, oui, on vénère le jardin. Il a un statut qui fait que on le respecte. Je ne veux pas dire qu'on va le tailler avec des ciseaux à ongles, mais presque, on en est là. Il y a une finesse, il y a une délicatesse dans la manière d'entretenir le jardin qui est tout à fait particulière au Japon. Le panorama qu'il procure, la subtilité et la fraîcheur. On est dans ces six caractères qui définissent le jardin japonais. La construction du jardin au début du XVIIe siècle et son entretien initial reviennent à la famille Maeda, régente du domaine de Kaga, qui couvrait alors les préfectures actuelles d'Ishikawa et Toyama. Détruit par un incendie puis restauré dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, il n'ouvrit au public que dans les années 1870. Alors, très souvent, il y a de grandes pièces d'eau sur lesquelles, évidemment, il y a des plantes aquatiques. Un grand étang artificiel aménagé comme un océan duquel partent de nombreuses ramifications. Donc, il y a la surface et il y a la perspective qu'on peut encore avoir au-delà de cette surface avec des ramifications qui partent dans tous les sens. L'étonnante variété des paysages du jardin s'appuie sur 183 espèces de végétaux qui constituent près de 8000 arbres complétés par une vue panoramique sur Kanazawa. Donc, vous voyez,
C'est énorme.
Quand je dis surface,
Ah oui.
Ainsi, Kenroku-en s'avère magnifique en toute saison, bénéficiant de floraisons variées tout au long de l'année et se parant d'un manteau blanc savamment travaillé en hiver. Donc, c'est évidemment, je ne vais pas dire, il faut y aller bien sûr au moment des cerisiers en fleurs parce que ça donne des visions un peu mousseuses. Quand on est sur des espaces comme ça, on voit ces arbres roses qui se mêlent à l'atmosphère et ça donne une douceur. Et ce qui est intéressant, quand les Japonais construisent leur maison, je pense que l'orientation la plus importante est pour eux le jardin, la disposition des fenêtres en tout cas. Et on doit apercevoir le jardin de la fenêtre comme un tableau. C'est vraiment, il fait partie intégrante de l'aménagement intérieur de la maison. Il y a peu de choses dans les maisons japonaises, mais justement, on a ce tableau. Et puis, on voit bien que dans la culture japonaise, il y a ces estampes qui savent aussi donner toute une importance artistique à la nature en décoration, quoi. Voilà pour le jardin japonais.
Oui, en même temps, ils prennent soin de cette nature et la mettent à profit. Ils savent la rendre encore plus belle et la mettre comme le théâtre, on disait tout à l'heure, c'est ressortir toutes ces
mais
plantes.
Mais avec beaucoup de naturel quand même. Beaucoup, et les matériaux, bon, ce qu'ils peuvent faire avec des galets, avec des cailloux, il y a des espaces de méditation qui vous entraînent dans un retour sur vous-même. Enfin, c'est très puissant.
Je dirais aussi, ce qui me vient à l'esprit, que c'est humble. De façon humble.
À partir du moment où on a une vénération, ça veut dire qu'on se place en dessous. Et c'est vrai qu'il y a cette approche très humble de la nature à travers les moindres éléments de cette nature. On ne va pas donner des coups de pied comme ça dans des tas de gravier, non. C'est très, très puissant. C'est reposant, ça semble assez naturel et pourtant c'est extrêmement construit et très puissant
et très travaillé,
voilà, et avec délicatesse, je crois que ce mot est très important. Alors l'autre jardin de France, j'ai choisi un très connu bien sûr, c'est le jardin de Giverny, le jardin de Claude Monet, qui là aussi est un lieu d'inspiration et de création. Et c'est lui-même qui faisait son jardin, Claude Monet. Il créa un jardin où les fleurs constituent, par l'harmonie de leurs couleurs et de leurs formes, des motifs de son espace de travail et d'observation. En fait, des effets de lumière, des vibrations. Et tout ça, évidemment, est indissociable de son œuvre picturale. Ce jardin laboratoire, parce que c'est là qu'il faisait des études diverses ou successives à certaines saisons, devant certains massifs. C'est lui-même qui choisissait ses espèces pour, en fonction de la peinture qu'il allait pouvoir en faire. Il y descend trois fois par jour, dit-il, tout l'argent que je gagne passe dans mon jardin. Ce jardin se situe à Giverny, à 70 km au sud de Paris. Devant la modeste maison de Bourg s'étend un jardin en pente douce, un ancien verger qu'il transforme en jardin fleuriste. Il le dessine lui-même dans l'esprit d'un jardin naturel. Et les vieux arbres fruitiers sont remplacés par des cerisiers et des pommiers à fleurs pour leur effet japonisant. On y revient.
Ah, oui.
Voilà. Des iris et des pivoines, ah oui, ces iris et ces pivoines sont regroupés dans des massifs qui ornent les pelouses, tandis que des plates-bandes reçoivent des vivaces et des plantes annuelles à fort développement, comme les glaïeuls, les dahlias, les asters et les grandes marguerites. Et à intervalles réguliers, des arceaux servent de support aux clématites et aux rosiers grimpants. Bah, c'est, ça aussi, c'est... Comment on appelle ça? Des... Ah zut! Des tonnelles, enfin ce qu'on appelait, oui, des tonnelles qui recevaient les rosiers et qui créaient des cheminements à l'abri du soleil et des lieux de conversation ou de repos.
De romantisme.
Oui, c'est très, oui, c'est vrai. Son amitié avec les grands horticulteurs Truffaut et Villemorin lui permet d'être très bien conseillé. Donc c'est bien. En 1893, il achète un autre terrain de l'autre côté de sa rue. Et là, il y fera justement un étang. Et c'est là où il va peindre ses fameuses nymphéas. Voilà. Et on sait que Monet a eu une cataracte et que progressivement, il perdait les couleurs. Et je me souviens d'une exposition à Paris faite par des Américains qui avaient étudié par des moyens techniques les tableaux en fonction de la vue qui...
Enfin,
voilà, il montrait comment il voyait les choses avec sa vue qui diminuait et qui en fait varier des couleurs, effectivement. Et bon, alors évidemment, c'est un jardin qui est très entretenu par des fondations américaines et le meilleur moment pour y aller, c'est le printemps.
Thank you.
FM 97.1 avec Elisabeth Boivin qui suivait le guide qui nous promène à travers les jardins d'ici et d'ailleurs. Nous venons d'entendre Rabbi Abou Khalil de l'album Blue Camel. Nous venons d'entendre Rabou Abou Kabou. Elisabeth, nous étions dans le jardin du monde avec le Japon. Ces jardins, des espaces, un lieu de vénération, de méditation. Vous nous avez parlé des jardins de Giverny, Claude Monet, qui est une palette de couleurs, un lieu de créativité et d'inspiration picturale. Je pourrais rajouter que... Effectivement, vous avez dit qu'il avait un étang et il avait une barque particulière pour circuler sur l'étang et pouvoir peindre ses plantes à partir de l'étang.
Oui, je pense qu'il avait besoin d'être au plus près de son motif. Et ce qui l'intéressait, c'était les couleurs, les nuances des couleurs, c'est la base de l'impressionnisme, hein, et la lumière sur les plantes surtout.
Et donc il s'en approchait
comme
ça.
Il s'en approchait, et certainement à plusieurs moments de la journée pour qu'il voit cette variation de lumière sur les plantes. Et je pense qu'il en a tiré vraiment... Des tableaux extraordinaires qui ont marqué l'histoire de la peinture à jamais, quoi, vraiment. Et dont beaucoup se sont inspirés. C'était à la fois de ce jardin tout simple, enfin tout simple, mais enfin,
avec
oui.
Beaucoup de travail et beaucoup de plantes.
Oui, et qui semblait en même temps assez champêtre.
Très champêtre.
Il avait un choix de végétaux qui restaient assez champêtres et aquatiques côté nymphéa. Mais et puis sa maison qui s'ouvrait là-dessus de manière tellement jolie avec elle-même très bien décorée à l'intérieur
avec les couleurs qui étaient choisies,
le jaune et le bleu
pour la cuisine, oui. Je crois, et ouais. Puis donc nous allons descendre un petit peu jusque dans un jardin en région Auvergne-Rhône-Alpes avec un jardin secret.
Les jardins secrets. Alors, c'est un endroit, je vais être très honnête, je ne le connais pas encore, mais je suis tombée sur ce jardin dans mes recherches et c'est à Rumilly, en Haute-Savoie. Et l'histoire de ce jardin est assez aussi incroyable. C'est une famille qui cherchait une maison, sa maison, où grandir avec la tribu des enfants. Et ils sont tombés sur une vieille ferme, mais vraiment vieille ferme, tout embarrassée d'entrepôts, de bois, de tuiles, enfin de... Voilà. Et ils ont trouvé que c'était là qu'ils devaient se grandir. Ils ont fait un travail extraordinaire et ils ont transformé ça en plusieurs jardins, plusieurs ambiances, ce qui s'appelle les jardins secrets. Et c'est un lieu très touristique. Ça se déroule sur 7000 mètres carrés à la découverte des jardins, de patios, de galeries, de petits salons. C'est une incitation à la rêverie, au développement de la créativité, de l'imaginaire. Et on ressent le jardin, on s'attache bien à l'atmosphère ainsi qu'aux détails. C'est une sorte, on rentre dans la magie des lieux qui nous sont proposés. Donc, il y a un aspect aussi qui m'a intéressée dans ce site touristique, c'est la grainothèque. C'est-à-dire que vous déposez librement des graines qui vous plaisent, vous pouvez en apporter, vous pouvez en reprendre, et on dit même pensez à apporter des graines de votre jardin et échangez-les dans notre boutique. Donc, il y a ce côté d'échange qui m'a beaucoup intéressée. On peut y manger sous des frondaisons. Voilà, tout ça est du 9 juillet au 27 août. Donc, une période bien déterminée. On peut profiter d'un décor raffiné et métissé pour déjeuner au cœur des jardins, sous des parasols ou à la fraîcheur dans nos petits salons. C'est vraiment une cuisine presque de la nature. C'est vraiment une évasion bucolique et originale. Et c'est ouvert 7 jours sur 7, du 9 avril au 8 octobre. Je trouve que c'est important de donner ce côté touristique au jardin, tant que tout est très bien respecté. On en a beaucoup en Isère, autour des châteaux. Et ce qu'on disait, c'est que c'est important dans un voyage, la découverte d'une ville le temps d'un week-end ou un voyage un peu plus long dans un autre pays, de se fixer, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a un jardin à découvrir précisément dans cette ville, ou se laisser surprendre au détour d'une rue ou d'un chemin par un jardin, un petit jardin de curé, ou au contraire un jardin qui a des plantes intéressantes. Se laisser surprendre par des ambiances, par des odeurs, par des plantes, par des bruits, par des sons. C'est un élément, pour moi, le jardin, c'est vraiment un élément constitutif de tout voyage vers la découverte d'un pays à l'étranger, ou alors une partie de la France, ou une autre ville française, ou même dans la région. Se dire, voilà, au même titre qu'on irait visiter une abbaye ou visiter une usine ou visiter, on va à la recherche, à la découverte d'un jardin, et on n'en sort jamais indemne. Et c'est intéressant de rencontrer les gens qui les ont conçus.
C'est ça, et il me vient maintenant à l'esprit, parce que c'est vous qui m'avez fait connaître lorsque nous faisions ces balades à la côte Saint-André.
Les fugues
Berlioz, et il y a le paradis
alors, fouillis, voilà.
et je crois que, on pourrait en parler un moment, parce que là aussi, toutes les essences rapportées de partout, et le personnage.
Alors, c'était vraiment le jardin dont je voulais parler aussi, pour donner un jardin tout prêt à visiter. Alors, le paradis fouillis, il faut savoir que c'est le paradis fouillis de Poupette. Poupette qui est un petit bout de femme, mais qui est très âgée. Et donc, la tactique de Poupette, c'est de dire, si vous voyez le verrou... J'ai téléphoné à l'office du tourisme de la Côte-Saint-André pour être sûre que c'était encore...
valable. Et possible de visiter.
Mais il faut pas partir en se disant, je vais le visiter. Peut-être que Poupette aura enlevé la chaîne du cadenas qui bloque son portail. Et si le cadenas est fermé, il faut respecter ça, c'est que ça ne se visite pas. Et s'il est ouvert, c'est peut-être qu'elle est dans son jardin en train de parler à ses plantes. C'est une personne extraordinaire qui parle à ses plantes et qui a su créer un jardin extraordinaire à son image.
En fait, je crois, de mémoire, c'est une institutrice,
oui.
Et elle a hérité ce terrain qui est assez conséquent de son papa, de son père, et elle a commencé, ou c'est lui qui avait déjà commencé à rassembler et à recevoir des plantes de partout ailleurs, et même maintenant,
quand les musiciens du festival lui rapporte des plantes. Oui, il y a des musiciens qui la connaissent très très bien, qui viennent de manière un peu régulière à la Côte-Saint-André et qui lui apportent des plantes pour son paradis fouillis. Quel nom, paradis fouillis, c'est trop joli.
Et là aussi, vous avez les arbres et puis les arbustes et puis les plantes rampantes.
Ouais.
Et ça donne toute une ambiance. Elle a une petite serre et une petite cabane où on peut boire. Nous avons bu ensemble le champagne. On a fait sauter le champagne.
Titane, vous faites rêver les gens. Et je pense que Poupette, je ne l'ai pas revue depuis un certain temps et je ne sais pas du tout dans quel état de santé elle est à l'heure actuelle, mais c'est vrai qu'en tout cas savoir que ce petit bout de femme a fait un super jardin avec qui a une âme Et elle parle à ses plantes et c'est tonique pour elle. Il faut qu'elle aille au jardin le matin. Et
elle s'y repose aussi.
Elle s'y repose aussi, oui.
Elle a son transat là-bas.
Non, c'était un vrai privilège de pouvoir aller dans ce lieu pour y faire des lectures, si on se souvient bien.
Oui, c'était super.
Donc, voilà, mais... Voilà, sous toute réserve il faut voir si le cadenas est ouvert ou s'il est fermé, voilà, en passant. Mais elle a un très très beau rosier devant sa maison,
un
rosier immense et magnifique, magnifique.
Ouais. C'est en
rien
face.
Que pour le rosier,
ah,
en
oui,
fait.
Rien pour le rosier. Donc, j'ai bien compris, il faut également être attentif au jardin, parce qu'il y a toujours quelque chose, comme vous le dites, à découvrir, à voir, des odeurs, des couleurs, et puis privilégier, en tout cas chez nous, c'est le printemps où tout s'ouvre, tout...
Oui,
tout
et c'est bien, oui, et je pense que en se promenant dans un jardin... On y trouve toujours un petit peu de soi-même, si on sait regarder.
Voilà, merci beaucoup Elisabeth, et à notre prochaine émission avec grand plaisir. Merci Laurent, à bientôt. Suivez le guide avec Elisabeth Boivin, guide interprète nationale du tourisme. Laissez-vous porter par sa fougue et sa passion à travers les chemins du patrimoine. Elisabeth vous emmènera, sans avoir l'air d'y toucher, dans la réalité et dans le rêve. Et tout ceci est possible grâce à notre ami fidèle, Laurent, à la technique.